Voici la main verte d'Alain Baraton.
France Inter, le 6-9 du week-end.
Et c'est pour une fois, Alain, nous parlions moins de jardinage et plus de cuisine.
Oui. Aussi, vous ai-je concocté un menu facile à réaliser. En entrée, bouillon blanc, suivi par des œufs de pinta, des choux gras et pour finir, fromager.
Vous vous prenez pour une grande toque, hein,
alors,
c'est ça ?
Rassurez-vous simplement pour un jardinier qui s'amuse aujourd'hui avec le nom des plantes. Vous me qualifiez de grande toque. Mais savez-vous que le Scutellaria garliculata ou Scutellaire à casque, c'est une plante courante que l'on trouve dans les terres humides et qui fleurit bleu, est aussi appelée grande toque.
Ouais, soit, mais il n'existe pas de plante qui s'appelle bouillon blanc, que je sache.
Vous vous trompez, le Verbascum tapsus est une plante originaire d'Europe et d'Asie, de la famille des Scrofulariacées. Elle est commune dans notre pays et fleurit jaune tout au long de l'été. Elle est plus connue sous le nom de Mullein ou bouillon blanc.
Ouais, inutile de préciser que ce sont les choux gras, tout le monde est censé le savoir, non ?
Il existe même une expression, faire ses choux gras, sauf que dans le cas présent, il ne s'agit pas du légume, mais d'une plante annuelle, le kénopode, qui, même si elle est comestible, apparaît dans le jardin sans y avoir été invité.
Ouais, vous évoquez aussi le fromager.
Alors là, beaucoup d'auditeurs le savent, j'en suis convaincu, il existe plusieurs arbres tropicaux appelés fromagers, le plus connu étant le capotier ou capoc. On le trouve dans les forêts d'Afrique de l'Ouest et l'Amérique du Sud, où il peut atteindre la hauteur de 60 mètres.
Alors, il reste à parler du plat principal, et là, en fait, je crains le pire.
Il est vrai que prétendre qu'une plante s'appellerait vraiment œuf de pintade n'est pas crédible, pas plus qu'une autre qui se nommerait la poule et les poussins. Alors, l'œuf de pintade est bien l'autre nom de la fritillaire pintade ou fritillaria mêlée et agris, une plante herbacée qui produit en été de jolies fleurs retombantes. Cette plante ne doit pas être confondue avec une vivace qui apprécie les sous-bois d'Amérique du Nord et qui est appelée, effectivement c'est son vrai nom, la poule et ses poussins, nom latin, Tolmia menzelensli. Et oui, dernière précision, si vous avez encore faim, Eric, j'ai en réserve un arbre à saucisse.
Ben je prends.
Et pour arroser le tout, un arbre à bouteille.
Eh ben je prends les deux, merci voilà. Alain Baraton. Vos conseils à présent, vos réponses aux questions des auditeurs. Jeannette par exemple vous demande quelle est la meilleure période pour traiter les bestioles qui vivent sous la terre.
Il y a une faune qui se balade là-dessous, vous n'avez même pas idée, top, hein. Larves diverses, nématodes, balanins, courtilières, etc., etc. Le problème, c'est que si vous traitez en été, il y a les légumes qui poussent et vous risquez de contaminer. Bah oui. Le problème, c'est que si vous traitez en hiver, bien vous risquez de n'avoir pas grand monde et c'est trop tard. Bien que faire déjà, faire la rotation des cultures. Quand vous avez une culture de légumes précise et que tous les ans vous remettez le même végétal en place, eh bien les bestioles ont compris le truc, elles ne bougent plus et attendent tout simplement que vous semiez par exemple les pommes de terre, que vous plantiez les pommes de terre ou semiez les radis. Donc premièrement, rotation des cultures. Deuxièmement, le bêchage. Je sais, certains vont dire, oui mais le bêchage, la bois... Non, le bêchage est excellent, ça aère la terre. Et le froid surtout permettra de se débarrasser de quantités de bestioles qui ne résisteront pas au gel. Et puis également, de temps en temps, un petit coup de griffe. Le balanin, c'est une petite bestiole qui vit dans les noisettes. Vous savez, vous guettez les noisettes avec appétit et quand enfin vous allez les ouvrir, paf, il y a un petit trou dans la coque et il n'y a rien à l'intérieur. Où sont les bestioles en hiver? Eh bien, les balanins sont dans la terre en surface. Un petit coup de griffe, c'est pas grand chose à faire. Les oiseaux ont repéré les larves, viennent les boulotter. Le froid, éventuellement, va décimer les survivants. Donc, on va simplement changer les modes de culture, mais on ne traitera pas le sol. D'autant plus que si on met des produits dans le sol, il y a de fortes chances que ces mêmes produits se retrouvent après dans votre assiette.
Paulette vous demande, à quelle distance du tronc faut-il couper une branche cassée sur un très vieux chêne?
Alors, je vais répondre d'une manière simple. Quand la plante est très vieille, quand il s'agit d'un chêne, par exemple, centenaire, l'idéal est de ne même pas couper la branche. On croit qu'effectivement, il est de bon ton de couper à quelques centimètres, jamais à l'aplomb du tronc, une branche endommagée, et c'est une erreur. L'idéal, ce serait de tirer la branche et de l'arracher. Ce sont des scientifiques anglais qui rappellent que l'arbre a une manière de cicatriser qui est conforme à ce qu'il vit d'ordinaire. Et dans la nature, il n'y a jamais de coupe aussi nette. Donc, croire qu'il est bon de couper un arbre de manière radicale est une chose, c'est faux. L'idéal est d'arracher la branche. Pour des raisons d'esthétique, par contre, il sera bien sûr possible de couper près du tronc, dans quel cas il faudra respecter au minimum 5 cm de manière à ce que la cicatrice puisse se disparaître très rapidement.
Il y a des produits pour les arbres pour cicatriser, non ?
Ils ne servent absolument à rien du tout. Tout ce qui est goudron de Norvège et compagnie ne savent qu'enrichir ceux qui fabriquent ou à masquer la présence de la coupe. Donc ça peut être utilisé d'un point de vue esthétique simplement.
Alain Baraton, question de Rebecca qui voudrait planter dans son jardin sa rose de Noël qui vit en pot, où puis-je la planter idéalement, vous demande-t-elle ?
Idéalement dans une terre riche, humide, à l'ombre ou en situation mi-ombrée. inutile non plus qu'elle fasse passer une annonce pour les escargots limaces. Ils sauront la trouver très rapidement.
Quelle est la meilleure période pour planter du muguet, vous demande Philippe.
Allez, réponse très courte. Au début de l'automne, c'est l'idéal, ou éventuellement au début du printemps, mais c'est vraiment au début de l'automne que c'est le mieux.
Lucas, est-il facile de cultiver... Alors, la pipe des Hollandais, je ne sais pas ce que c'est.
Oui, c'est l'aristoloche siphon. C'est une plante grimpante qui, justement, produit des fruits, des fleurs, pardonnez-moi, en forme un petit peu de pipe. Il faut avoir un petit peu l'imagination quand même. Et donc, c'est une plante qui ne demande pas beaucoup de soins, qui pousse très, très rapidement, qui est une plante relativement rare. Et c'est une plante que l'on trouve à l'état naturel en Amérique du Nord.
Existe-t-il un produit pour étanchéifier un bassin sans le vider, hein ?
Oui. La bentonite, c'est un argile en poudre, que l'on va semer en quelque sorte ou disperser au-dessus de l'eau. Cette argile va se déposer au fond, faire une petite couche et va étanchéifier le bassin. Mais attention, on ne peut pas étanchéifier de manière parfaite. On le fait régulièrement, ça peut fonctionner. L'idéal est quand même de le faire de manière structurée, mais effectivement, ça peut contribuer à favoriser l'étanchéité d'un bassin.
Allez, un conseil jardinage ou balade, je ne sais
non,
pas.
Non, non, jardinage est un bouquin beaucoup plus sérieux que ce que j'ai dit tout à l'heure, quoique tous les mots étaient vrais.
Tout ce que vous dites est sérieux.
Oui, c'est
exactement. Et d'apprendre au sérieux, en tout cas.
Tout à fait. Encyclopédie des plantes alimentaires par Michel Chauvet, c'est un gros bouquin publié chez Belin, 880 pages, 69 euros. On parle de plus de 700 espèces de plantes alimentaires. Bouquin extrêmement bien documenté. C'est un joli cadeau à faire pour Noël. C'est un très
alors
très bel ouvrage.
Alors, donnez pas le prix on si c'est un cadeau à faire pour Noël. Non, parce que si on le reçoit...
Parce que je ne veux pas que les auditeurs soient un petit peu décontenancés en découvrant le prix. 69 euros, ça reste une somme.
C'était les bons conseils d'Alain Baraton, oui. Jardinier du château de Versailles. Merci Alain Baraton, à la semaine prochaine.
À samedi.